Bonjour, je suis Rachel You, l'une des fondatrices de Human Tempo. Human Tempo organise des césures de ressourcement dans de petits châteaux en Bourgogne. Nos programmes sont destinés à toutes les personnes qui souhaitent faire une pause, récupérer de l'énergie, voire sortir d'une situation d'épuisement, de burn-out, ou encore travailler sur leur confiance en elles. Vous pouvez retrouver toutes nos césures et les dates sur le site www.humantempo.com. Dans ce podcast, nous proposons à d'anciens participants des programmes Human Tempo de témoigner de leur vécu par rapport à l'épuisement et au burn-out. Comment tout a commencé, ce qu'ils ont vécu avec nous, ce qu'ils ont également mis en place par ailleurs pour récupérer durablement, et bien sûr là où ils en sont aujourd'hui. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Adeline. Donc Adeline, tu étais avec nous il y a un peu plus d'un an, je crois, hein, maintenant, le temps passe vite. Et donc, tu as un parcours que je trouve super inspirant et donc ça me fait très plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire peut-être quelques mots sur toi ?
Oui, bonjour Rachel, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Adeline, je suis maman de deux enfants. Et j'ai un parcours, après des études scientifiques, je suis rentrée 8 ans en agence de communication. Je suis partie après un burn-out, mais je ne savais pas que ça s'appelait un burn-out à l'époque. Et puis j'ai enchaîné avec 8 ans dans un groupe industriel international, où là j'ai occupé une fonction de cadre dirigeante aussi pendant 8 ans. Et je suis partie à la suite d'un deuxième burn-out.
D'accord, parfait. J'aime bien quand tu dis que le premier burn-out, en effet, tu n'avais pas conscience que c'était un burn-out. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez nos participants et que j'ai vécu à titre personnel. Étant donné qu'on est souvent mal informé et puis qu'il y a aussi une forme de « ça ne peut pas m'arriver, c'est pas possible », parfois, on a besoin qu'un deuxième épisode pointe le bout de son nez pour se dire « peut-être que ce que j'ai vécu, ça ressemblait quand même pas mal à un burn-out ». Comment oui. Tu dirais ça, toi ?
Je pense qu'en 2012, la date de mon premier burn-out, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est des mots dont on entend parler, mais en 2012, moi, je connaissais pas. Donc, j'aurais jamais pensé, pu imaginer que ça puisse être ça.
T'avais quoi comme symptômes ? Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là ?
Là, c'était un surinvestissement en termes de charge de travail. Bon, surinvestissement aussi en termes d'engagement. Je suis partie quand j'ai ressenti une injustice, une espèce de trahison à haut niveau. Et donc là, je me suis dit, avec un tel investissement, un tel engagement, j'ai sacrifié des heures et des heures, c'est pas possible. Et donc, je suis partie aussi en licenciement à l'amiable.
Ouais, ok. Donc là, c'est quand vraiment ça a heurté tes valeurs que tu t'es dit, bon là, stop quoi.
Voilà.
Ouais, c'est
et là, après, je pleurais beaucoup, etc. Mais je pensais que c'était juste dû au fait que oui, j'avais ressenti une grosse déception.
Et oui, c'est ça.
Mais il m'a fallu 18 mois pour me dire, allez, je reprends un autre job.
Ouais, 18 mois. Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est long. Et effectivement, c'est d'autant plus. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais c'est souvent un peu stressant de se dire comment ça se fait qu'il me faut si longtemps. Surtout si tu n'as pas le bon vocabulaire, tu ne sais pas que c'est un burn-out. Parfois, tu peux se demander ce qui nous arrive. Comment tu l'as vécu, ces 18 mois ?
Moi, ça a été parce qu'en fait, tout de suite après, j'ai été enceinte de ma deuxième fille. Donc, j'ai eu les 9 mois de grossesse et après, les 9 mois pour m'occuper d'elle. Donc, j'étais plutôt concentrée là-dessus.
Ouais, super. Bon, très bien. Et du coup, donc, tu as replongé dans un job. Et alors là, comment ça s'est passé ? À quel moment tu as senti que tu étais à nouveau borderline ?
Alors, en fait, là, c'était génial. C'était vraiment la boîte dans laquelle je rêvais d'aller. J'ai trouvé mon job passionnant. J'étais vraiment tellement motivée, tellement heureuse de travailler dans cette boîte-là. Et j'y ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, en 2020, avec le Covid, l'ambiance a commencé à changer. Et je m'étais juré de pas refaire la même erreur, de me surinvestir en termes de charge de travail, et j'avais réussi.
Ouais.
Donc, j'étais très contente d'avoir une vie à côté du travail. Donc, ça, c'était vraiment le point positif de ma deuxième expérience professionnelle. Mais par contre, à partir du Covid, moi, j'étais directement rattachée au président. Et quand il y a eu le Covid, il y a eu panique, il y a eu une ambiance très stressante. Et puis, on a fait des acquisitions. Il y a eu d'autres mouvements de fusion-acquisition qui ont vraiment, le climat a changé. Et pour moi, c'était plus tenable.
Ah ouais, d'accord. Et alors, comment tu l'as senti? Est-ce que tu as eu des symptômes, des comportements qui t'ont un petit peu alerté? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Ah ouais, à partir de 2020, donc déjà les vacances, les grandes vacances n'étaient plus reposantes. Je le sentais pendant les grandes vacances. Pendant les grandes vacances, je me disais, mais c'est pas possible, je choisis jamais bien, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en 2020, que ça le fasse, je me dis, bon, bah c'est le Covid, tout le monde a dû partir au même endroit, il y a trop de monde, c'est pas possible de se reposer et tout. Puis en 2021, quand je vois que de nouveau, j'arrive pas à me ressourcer et que je reviens en septembre et que je suis HS. Je crois que c'est après 2020 où, quand je suis revenue, j'ai posé 7 jours. Ça m'était jamais
Ah
arrivé.
oui, à
7
l'issue de tes
jours
vacances.
à l'issue de mes vacances en
Ouais.
septembre, je reviens, je mets un pied dans l'entreprise et là, à plat, dans mon canapé pendant 7 jours. J'avais jamais eu ça.
Ouais, super symptôme, ouais, très parlant.
Ouais, et puis bah, j'y suis retournée. Et puis en fait, on a fait une acquisition à l'international et là, ça m'a reboostée parce que du coup, bah, j'avais des responsabilités à l'international. Donc c'était super de voyager, de rencontrer d'autres collègues, d'avoir une équipe, même mon équipe à l'international, c'était vraiment super. Et puis ça m'a redonné, de l'énergie. Mais en parallèle de ça, j'ai une coéquipière qui est partie à l'étranger, qu'il a fallu remplacer et que j'ai jamais réussi à remplacer. Donc ça me faisait un énorme trou dans la raquette en termes de charge de travail et de pression.
Ah bah oui.
Parce que chaque tentative de remplacement, on se donne à fond, et en fait, c'est pas la bonne personne, donc ça le fait pas. Donc ça m'a pas mal handicapé. Et puis, il y a eu une date fatidique en octobre 2022, 2021, puisque je suis ici hein, le 1er mai 2022. Donc en octobre 2021, je présente une stratégie à 3 ans au comité de direction du groupe. Et là, j'avais 2 ou 3 heures de présentation, il y avait un workshop, c'était quelque chose qui devait être co-constructif, et là, ça marche pas, ça prend
Ouais,
pas.
d'accord.
Il y a le PDG et le DG qui dorment. On est le
Ok,
soir.
bon.
Et là, je me prends une claque, mais immense.
Ah
Le directeur financier qui avait loupé son avion, qui n'était pas là, et je pensais qu'il allait me soutenir, il n'est pas là.
ouais.
Donc là, je me prends une claque, mais immense. Et là, je me dis, mais c'est... Enfin, voilà, je dois partir, c'est fini.
D'accord,
Ce
ouais.
jour-là, je me dis, c'est fini. On était en octobre 2021.
Parce
Mais
que,
encore une
ouais.
fois, je ne pensais pas au burn-out. Je pensais juste encore à une déception. Je suis passionnée par mon métier, donc je veux faire bien les choses. Et puis, le temps passe et je me dis, OK, bon, c'était un échec, mais je vais apprendre de mon échec. Si je ne sais pas le faire toute seule, je vais me faire accompagner. Et je tente un accompagnement et là mon PDG me dit non.
Ah, il refuse de financer la
Un
présence d'un
accompagnement
coach ou d'une formation, d'accord.
alors qu'en faisant moi-même ça lui plaisait pas non plus. Donc en fait je me sens perdue. Je sais plus ce qu'on attend de moi. Je suis face à un échec un peu permanent parce que tout c'était pas la première fois. Tout ce que je proposais, j'avais deux casquettes et dans mes deux casquettes, c'était comme ça dans les deux casquettes, c'est-à-dire soit on me disait d'aller par là et en fait on attendait que j'aille de l'autre côté, des injonctions paradoxales qui se sont expliquées plus tard par un rachat de notre groupe que je ne connaissais pas et voilà, dont je n'avais pas connaissance, mais moi ça a fini de m'achever en fait.
Et oui.
De vivre constamment dans des projets qui sont reportés, qui sont annulés à la dernière minute. On dit oui, puis on dit non, et puis on me dit pas les choses. En fait, on s'en foutait, quoi. Il
Et oui.
fallait que je bosse, mais le résultat n'avait pas trop d'importance.
Donc en fait, tu avais l'impression que ce que tu faisais, personne n'en prenait
Voilà.
connaissance, ou ne le lisait, ou ne songeait à le mettre
Voilà.
en œuvre. Ouais, d'accord.
Alors qu'avant, ça faisait 6 ans que c'était pas le cas, quoi.
Et oui.
7 ans où mon travail était apprécié.
Ouais.
Et là, tout à coup, c'est plus le cas. Il y a un truc qui se passe et je suis perdue. Et en fait, donc en janvier, on a un gros événement. Et là, je vais voir mon patron après l'événement, tout de suite après, et je lui dis, voilà, j'ai besoin d'un an sabbatique parce que mentalement, je suis
Ah
fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Mon mental est à plat. Mais je ne savais pas encore que ça pouvait être un prémisse de burn-out. Je ne savais pas. Et il me dit oui. Et puis un mois passe, 1 mois et demi, 2 mois, et là, en gros, je comprends que c'est non. Finalement,
Ah,
il a besoin de
d'accord.
moi jusqu'en juillet.
Donc il t'a dit oui pour avoir la paix, mais concrètement, il n'y a pas de passage à l'action, quoi.
Oui, et puis en fait, comme il y avait un rachat qui était prévu, il voulait que je
Oui.
m'arrête jusqu'à ce que le rachat soit fait.
D'accord, ouais.
Sauf que moi, ça, je pouvais plus. Je
Bah
pouvais
oui.
plus. D'ailleurs, j'avais dit à mon équipe, je peux plus. Donc faites sans moi, je suis là pour les coups durs, mais là, faites comme si j'existe plus. Je peux plus.
Ah ouais.
En janvier.
Concrètement, ça voulait dire à quoi ressemblaient tes journées? Tu allais au travail quand même? Tu
Non, je restais à la
étais
maison.
resté à la maison, ouais.
Ouais, j'étais en télétravail et je me
Ouais.
déplaçais que s'il y avait des comités de direction ou des choses comme
D'accord.
ça. Et sinon, je restais à la maison. Et en fait, je me connectais, hein, j'étais devant mon ordinateur, mais je pouvais plus, je servais plus à rien.
Ouais. Ouais, ça c'est intéressant aussi comme type de burn-out. On a régulièrement des témoignages dans ce sens-là, avec tout ce qui va avec de culpabilité, de sentiment d'abandon, etc. Parce qu'effectivement, ça ne te ressemble pas. Enfin,
Ben non.
j'imagine que toi, ce n'était pas tes habitudes de travail. Donc, c'est particulièrement perturbant. Qu'est-ce que tu avais comme sentiment, émotion à ce moment-là?
Ah bah, j'avais vraiment sauve qui peut, sauve-toi, tes dernières énergies qui te restent mêlées pour la rupture conventionnelle. Il
Superbe.
fallait vraiment que je me sauve, c'était un besoin vital.
Ouais.
Et en fait, mon patron ne voulait pas. Et puis en avril, là, je vais au siège et là, je m'énerve fortement. Et comme les bureaux sont vitrés, tout le monde le voit, je claque les portes, tout le monde le voit. Et là, c'est la DRH qui était au courant de rien. Depuis janvier, elle n'était pas au courant.
D'accord,
Elle
non.
vient me voir, moi j'étais dehors, hein, j'étais partie, elle vient me voir dehors et elle a pris connaissance de tout ça et elle m'a proposé en gros une rupture conventionnelle.
Ouais, d'accord.
Mais ouais,
Bon, bah, heureusement alors.
oui, bah oui, parce que moi
Ouais.
je pouvais plus.
Ouais. Ok, donc à ce moment-là, enfin la porte de sortie. Et
Oui.
donc, est-ce que tu es passé par la case arrêt maladie, toi, ou t'es parti
Non,
plutôt en
ben en fait,
d'accord.
mes maladies sont. Donc en fait, j'ai arrêté en avril et je suis venue chez vous le 1er mai 2022.
D'accord. Donc
Et
assez
en fait,
rapidement.
bah oui, parce que je t'avais appelé et je t'avais décrit mes symptômes et tu m'avais dit, moi, j'ai juste besoin d'une semaine pour me reposer. Et quand je t'ai décrit mes symptômes, tu m'as dit, non, mais viens quand même au burn-out, t'es peut-être pas concernée, mais peut-être que oui, et tout ça. Et c'est vrai qu'en venant au burn-out, je me sentais toujours pas à la césure anti-burn-out, je me sentais toujours pas comme les autres parce que les autres, beaucoup prenaient des médicaments, moi j'en prenais pas encore. Beaucoup étaient presque à pleurer toute la journée, moi non. En fait, quand je suis venue, j'étais encore en mode adrénaline, stress à outrance et accrochée à la dernière branche de l'arbre de votre petit dessin que vous donnez dans le big cahier.
Yes, tout à
Et
fait.
donc, pour l'instant, je n'avais pas encore sombré, en fait. Quand je suis venue, j'étais encore dans cette période où on tient avec le stress, avec l'adrénaline.
Ouais, tout à fait. C'est une période qui peut être trompeuse parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression qu'en fait, ça va.
Ouais.
Et je sais pas comment tu l'as vécu, mais souvent, effectivement, au bout de 2, 3 jours dans la césure, les gens sentent que il y a quelque chose qui lâche et c'est perturbant parce qu'il y a presque l'impression que ça va moins bien,
C'est
alors que
ça,
c'est le
c'est que
corps qui se
quand
défend.
vous dites prenez une photo avant-après,
Ouais.
moi ma photo après, elle était 10 fois pire que ma photo avant. C'est-à-dire qu'avec tous les soins, l'ostéopathe en particulier qui m'a fait vraiment lâcher, à partir du moment où j'ai rencontré l'ostéopathe, je crois que c'est Corentin, c'est ça?
Oui, Corentin, tout à
À
fait.
partir du moment où je l'ai rencontré, oui, ça a lâché. Et puis après, là, j'ai dû être sérieusement accompagnée. J'ai ma médecin généraliste qui m'a accompagnée. Tant sur le plan mental que sur le plan physique. Et en fait, j'ai fini à l'hôpital, mais après. C'est-à-dire
Ah,
que,
ben oui.
ouais, j'ai eu. En fait, mes organes avaient été touchés par ces 2 ans de stress. Et il a fallu que. Ouais, j'ai eu 3 organes touchés et il a fallu s'occuper de tout ça, quoi.
Donc, il y avait des vraies conséquences physiologiques, enfin sur ta santé physique,
Ouais.
à ces années extrêmement stressantes alors.
C'est ça.
Ouais.
Stressante, fatigante et pleine de stress et d'inquiétude et tout ça,
Bien sûr. Alors ça, je vais me permettre juste d'insister un tout petit peu pour nos auditeurs, hein, parce que souvent, en fait, il y a ce côté, oui, bon, alors, ok, c'est stressant, mais bah, il suffit, entre guillemets, que je m'en aille, que je trouve la possibilité de rebondir sur autre chose ou quoi, pour que, ben, en quelque sorte, on reparte à zéro. Mais c'est vraiment important que les gens entendent que le stress abîme vraiment physiquement, en fait, le
ouais.
corps. C'est pas juste dans la tête.
Non.
Et effectivement, parfois, ouais, vas-y, ouais.
Ma médecin généraliste me l'a dit hein, quand j'ai dit, mais parce qu'en fait, quand je suis venue, c'était au mois de juin, donc je suis venue chez vous au 1er mai, et au mois de juin, Je pleurais du matin au soir et ma mère m'a envoyé consulter. Et là, elle m'a dit, OK, on va faire un bilan global. Et on a fait un bilan. Et en fait, ouais, elle m'a dit, bah, c'est normal, tout ce que vous avez là, c'est le stress. Bah, comme on l'a appris chez Human Tempo, le cortisol. La cortisol
Le cortisol.
abîme beaucoup les organes finalement.
C'est ça. Notre corps n'est pas fait pour baigner dans un mélange d'hormones de stress de manière permanente. Normalement, c'est à court terme et quand ça se prolonge, effectivement, il y a vraiment des conséquences. C'est important de le percevoir et ton témoignage est super important là-dessus.
Et moi, j'ai quitté ma boîte en avril 2022 et c'est en septembre 2022 où j'ai passé pratiquement tout le mois de septembre à l'hôpital, quoi. Donc, comme quoi ça peut arriver. En fait, quand on lâche, eh ben, le corps enfin, et qu'on prend le temps de regarder pourquoi on a tel et tel symptôme qu'on croit pas très grave finalement, parce que les symptômes, je les avais depuis longtemps, mais je ne prenais pas le temps de m'y intéresser en me disant que le corps suivra. Et en fait, bah, quand on prend le temps, il est temps. Heureusement que je l'ai fait à temps. Aujourd'hui, tout va mieux, mais
Bien
c'était bien.
sûr, tout à fait. Alors, on va revenir sur aujourd'hui parce que c'est un message très encourageant. Mais effectivement, comme je le dis souvent, hein, l'épuisement, le burn-out, ça concerne des gens qui ont une très forte capacité de travail, une vraie attention à l'autre, donc essayer de faire passer ses équipes avant soi-même, à prendre sur soi pour pas que les autres aient trop à faire, etc.
Effectivement.
Une très bonne santé, en général, une bonne résistance physique, c'est pour ça qu'on va si loin. Sinon, les gens qui n'ont pas tout ça, ils s'arrêtent bien avant de se faire du mal. Mais quand d'habitude, en fait, tu as l'habitude que tu tiennes, que ça passe, que tu sois en mesure de faire les choses, eh ben, le problème, c'est que tu risques d'aller beaucoup plus loin qu'il ne faudrait et que le jour où il faut lâcher la fameuse branche, ben, tu sais pas faire quoi. Hein. Donc,
Exactement.
Donc, j'aime bien ce que tu dis là sur le côté que, effectivement, le séjour Human Tempo, pour toi, t'en es ressorti. Bien pire. Donc voilà, si vous nous écoutez, venez, vous allez aller moins bien et ça sera une très bonne chose. Non mais effectivement, régulièrement, on a des gens comme toi qui arrivent en disant non mais ça va pas si mal. Au bout de 3 jours, ils sont en train de pleurer toutes les larmes de leur corps et c'est enfin le début du moment où ils peuvent récupérer en profondeur et arrêter de faire semblant.
Voilà.
Le
Et prendre
risque,
soin de
voilà.
son corps. Parce que moi, j'avais vraiment, en plus, j'étais sportive et tout ça. Et je lui en demandais beaucoup à mon corps. Et puis tout d'un coup, j'ai compris qu'on n'en avait qu'un et qu'il fallait en prendre soin.
Tout à fait, tout à fait. Bon, donc après la césure, un moment donc compliqué pour toi, qui a duré combien de temps alors cette période où tu dirais que voilà, il y a eu ce côté je lâche, je m'autorise à prendre soin de moi?
Je dirais de juin. Donc 2022 à avril 2023.
D'accord. Donc là, vraiment, tu as évacué autant que possible les problèmes de santé, en tout cas,
Voilà.
tu as mis en place de la récupération.
Voilà. Et puis à partir de décembre 2022, j'ai entamé une reconversion et une formation en céramique pour apprendre le métier de tournage en céramique. Et j'ai passé mon CAP en juin
Bravo, bravo.
2023 et je l'ai obtenu.
Bravo. Bon, génial. Alors, raconte-nous un peu cette envie de mettre les mains dans la terre. Comment, c'est une
Alors
passion
oui,
depuis toujours? Ça t'est revenu? Qu'est-ce qui s'est passé?
non, pas du tout, mais j'avais un espèce de complexe de me dire que justement c'est ce rapport au corps, encore une fois, c'est ce complexe de me dire que j'utilisais que mon cerveau tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que tout se passait là-haut et qu'il y a un moment où j'avais besoin de le lâcher, ce cerveau, de le mettre au repos un petit peu pendant quelques temps, voilà, de ne pas trop lui en demander. Et j'ai eu besoin de savoir faire des choses avec mon corps, avec mes mains en l'occurrence. Et le rapport à la terre est très important pour moi. Donc, et puis cette notion aussi de se dire, bah, j'ai peut-être, voilà, ce que je faisais ces dernières années n'avait peut-être pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas changé la face du monde, mais de faire des objets utiles au quotidien avec mes mains, etc. Je trouvais que ça avait du sens, quoi. Je me dis, bah, ça au moins. C'est concret, ça peut être beau, surtout que il y a le côté émaillage qui me passionne en tant qu'ex-chimiste.
Ah,
Donc
mais
voilà, donc du coup j'ai appris comment faire de l'émail à partir des matériaux qu'on peut récolter dans la nature.
Ah,
Et
génial.
ouais, et ça me passionne énormément.
Super. Donc, tu as laissé monter cette passion au point d'en faire un métier hein, aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai investi dans un four, j'ai transformé mon garage en atelier, et puis j'ai commencé mes premiers marchés de Noël en décembre.
Bon, super. Et tu me disais que les ventes avaient été plutôt très encourageantes.
Oui, exactement. Je m'étais fixé des objectifs et j'ai été
Ouais.
au-delà de mes objectifs, donc je suis très contente. Et puis surtout, voilà, des retours clients super. Ils adhèrent vraiment à cette histoire des maillages, de faire comme on faisait il y a 2000 ans quand les magasins démo n'existaient pas, de retourner aux sources en fait en travaillant des produits locaux, des produits qu'on peut ramasser donc dans la nature. Donc voilà, ça c'était super important pour moi.
Bon, génial. Alors, le but, c'est pas non plus de peindre un tableau idyllique, parce que tu me disais aussi qu'aujourd'hui, ben, le constat, c'est que ça reste un métier, dont il est difficile de vivre.
Tout à fait.
Ouais.
Donc, à partir de, j'ai voulu aller jusqu'au bout parce que j'ai d'autres choses, d'autres projets qui fleurissent dans ma tête. Mais avant de partir sur d'autres projets, je voulais vraiment aller au bout de cette histoire et regarder ce que ça faisait si on était céramiste à plein temps. En interrogeant toutes les nouvelles amies céramistes que j'ai pu croiser sur mon chemin, je me rends compte que enfin, on en vit très difficilement et il faut faire énormément, faut travailler énormément pour gagner très très peu.
Et oui, c'est souvent un peu le revers de la médaille des métiers d'art, hein,
Ouais.
c'est sûr. Donc, t'en es où là? Tu continues donc sur cette voie, tu commences à regarder comment combiner ça avec peut-être un autre métier. Où est-ce que tu en es de ta réflexion?
Oui, alors aujourd'hui, je sais que j'ai pas envie de retourner en entreprise, ça
Ouais.
c'est une chose. Effectivement, j'ai plusieurs alternatives qui me trottent en tête. Une première serait de allier la céramique avec autre chose, un job avec revenu régulier. Comme je suis agrégée de chimie, je pourrais très bien être prof, par exemple.
Mais oui.
Mais la deuxième, ça serait de me lancer dans la création d'entreprise, dans un autre domaine, mais où la céramique aurait quand même sa place. Donc voilà, je
Trop
suis en
bien.
train d'avancer là-dessus. Maintenant que j'ai été jusqu'au bout de la partie céramique, et ben je me donne l'opportunité d'aller jusqu'au bout de mon deuxième projet, parce que même quand j'ai commencé à céramiste, la céramique il y a un an. Un peu plus d'un an, j'avais déjà les deux projets en tête. J'ai voulu en
D'accord.
faire un, et puis maintenant j'ai un deuxième projet en tête.
Génial. Bon, et ben écoute, on a hâte de suivre la suite de tes aventures. C'est chouette. Alors, ce que j'ai envie de te demander, c'est un petit peu quelle a été l'attitude de ta famille, de tes proches à travers tous ces moments, parce que bon, à la fois, ça a dû être, c'est souvent compliqué, hein, de voir un proche s'enfoncer dans le mal-être, l'épuisement. Et puis, bah, j'imagine que quand tu es allé jusqu'à des phases d'hospitalisation, bah, ça, il y avait peut-être de l'inquiétude. Et puis maintenant, une reconversion. Comment est-ce qu'ils ont pris tout ça?
Alors j'ai de la chance parce que moi je viens d'une famille où on n'avait jamais traversé de dépression. On est tous force de caractère, force de travail, etc. Donc quand j'ai sombré en juin 2022 et que la médecin m'a dit bah il faut vous mettre sous antidépresseur, là pour moi c'était clair que j'allais pas les prendre parce que on va pas être sous, c'est pas possible de prendre des médicaments quoi.
Mais
Et
oui,
là
bien sûr.
non. C'est pas possible.
Culturellement, c'était pas dans ton scope, quoi.
Puis culturellement, il y a cette histoire de dépendance, qu'on s'en sort
Ouais.
jamais, etc. Donc,
Ouais.
oh là là,
Il y a
moi,
beaucoup de peur, ouais.
ouais, ça me faisait peur, je voulais pas. Et puis là, j'ai mes parents, ma sœur et mon mari qui m'ont dit, non, non, tu prends ce que le médecin t'a donné. Elle connaît son métier, c'est elle qui est médecin, c'est pas toi.
Ouais.
Et puis, et t'en as besoin. Si elle te l'a donné, c'est que t'en as besoin et tout ça. Donc ils étaient vraiment, je m'attendais pas à ce genre de réaction. Et en fait, ils ont été vraiment super aidants parce que pendant 2 3 mois j'ai été alitée. Hein.
Mais oui, ah oui, quand même, hein.
Après Human Tempo, hein, pendant 2 3 mois, je ne pouvais pas faire une vaisselle, je pouvais pas faire rien du quotidien, rien.
Mais oui, ouais.
Et là, ils ont été compréhensifs. Je pouvais pas parler non plus. C'est-à-dire que, ah non, je tenais pas de conversation. J'étais donc, et ils m'ont m'en ont pas voulu, ils n'ont pas cherché à me dire mais mets-toi au sport, mais va marcher, rien, non, ils m'ont laissé vivre ce que j'avais à vivre, mais en ayant toujours confiance.
Super.
C'était incroyable parce que je me disais, ils ont plus confiance dans le fait que je vais aller bien que moi.
Ouais.
Que quand on est dans une phase comme ça, on voit pas le bout, on se dit tout je vais jamais en sortir, comment ça se fait, enfin on est paniqué. Et en fait, ma famille, eux, avaient énormément confiance en moi. Ils savaient que ça allait passer.
Génial.
Ouais.
Alors, le soutien des proches, c'est absolument fondamental pour sortir d'un épisode de ce type-là. On le dit souvent, et voilà, si, par exemple, vous nous écoutez, vous n'avez pas forcément une famille très compréhensive ou des amis ou quoi, c'est pas impossible de s'en sortir. C'est juste que quand on a des proches autour de soi qui croient en vous, comme ça a été le cas pour toi, Adeline, mais c'est sûr que c'est un énorme appui, quoi. Donc,
exactement. Ça me rassurait parce que pour moi, j'étais dans un tel, noir, quoi,
ouais.
que je me disais, je reverrai jamais la lumière, je retrouverai jamais la joie. Le courage de faire quoi que ce soit, les envies, les rires et tout ça. Et puis tout est revenu, donc je rassure aussi tout le monde.
Oui, très important de le dire ça, vas-y, dis-le haut et fort. Aujourd'hui, tu es capable de rire et de profiter de la vie alors.
Aujourd'hui, je suis plus heureuse que jamais. Parce
génial.
Que en plus de rire comme je riais avant, en plus de goûter à toutes les joies de la vie auxquelles j'avais goûté avant, là, j'ai une sérénité et un accord avec ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, avec mes émotions, avec le moment présent que je n'avais pas avant. C'est-à-dire qu'avant, je mordais la vie à pleines dents, mais j'étais pas dans cette sérénité et dans cette écoute de mon corps et de mes émotions. Et donc, ça change tout.
Ouais, super intéressant. Ok, et aujourd'hui, avec un an et demi de recul, qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Human Tempo? Est-ce qu'il y a des choses dans notre programme où tu t'es dit, bah oui, tiens, ça, je m'aperçois que ça continue à me nourrir?
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la partie théorique qu'on avait tous les matins. Parce que, encore une fois, je suis quelqu'un de très. Où tout se passe dans la tête, je dirais pas intellectuel, mais qui intellectualise peut-être.
Bien sûr, oui.
J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de. Et en fait, tous les matins, il y a une partie théorie sur le burn-out. Et moi, ça m'a ouvert les yeux. Je connaissais pas tout ce dont vous avez parlé, les croyances limitantes, le triangle
de Cartman.
Voilà, tout ça, ça a été super important pour moi de comprendre ce qui se passait, de comprendre comment tout ça arrive, tout ce qu'il faut pour l'éviter. Voilà, tout ça, ça a été très, très important pour moi, la théorie.
Chouette. Ça t'a donné des clés, alors?
Ouais, ça m'a donné des clés parce que, encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui demande pourquoi. J'ai besoin de tout comprendre.
Et bien sûr.
Et quand je comprends, ça me paraît plus simple d'aborder ce qui se passe, d'affronter les difficultés.
Yes.
Ensuite, il y a eu le groupe, évidemment. Donc, j'ai entendu dans les autres podcasts que ça avait été le cas à chaque fois, mais nous aussi, on a eu un super groupe où nous aussi, ça a beaucoup rigolé. Il y avait de tout. Il y a eu des moments où chacun s'exprime au moment justement de la partie le matin sur le burn-out, sur les difficultés où là, on pleure beaucoup, mais il y a les moments entre où on se prend des fous rires, où on rigole beaucoup. Ça, c'était chouette. D'ailleurs, on est toujours en contact et j'ai beaucoup de plaisir à avoir des nouvelles des uns et des autres.
Bon, super.
Il y avait les activités de groupe, bien sûr, qui étaient très, très bien, avec le Qigong dès le matin, et puis les activités individuelles, et en particulier l'ostéopathe. L'ostéopathe qui m'a... Il y a un avant, il y a un après.
Oui, alors je préviens quand même pas pour 100% de nos participants, parce qu'après, les gens arrivent en pensant vraiment qu'ils vont vivre une transformation systématique, mais effectivement, sur certaines personnes, quand c'est le bon moment, parce que je pense que pour toi, c'était le bon moment aussi pour aller regarder un peu ce qui se passait en profondeur, il peut y avoir un effet très puissant grâce à Corentin, notre ostéopathe préféré.
Exactement.
Bon, ravi alors de savoir que ça a été le début d'une transformation importante, parce que c'est vrai que j'aime bien ce que tu dis sur le côté... avant, tu mordais aussi la vie à pleines dents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'avant, tu étais malheureuse et maintenant, tu es heureuse. Mais tu es heureuse d'une manière plus, si je comprends bien, plus profonde, plus sereine, plus authentique peut-être.
Ouais, exactement.
Bah, génial,
Et moins sur le
formidable.
fil, en fait, hein.
Ouais. Oui, on peut parfois avoir, être plus dans une vie où finalement on remplit beaucoup. On est plus dans cocher des cases ou être dans une performance. Il y a peut-être moins le temps pour une forme de sérénité. Donc,
Exactement.
bon, au moins ce burn-out aura servi à quelque chose alors.
Exactement.
Bon, et pour conclure, Adeline, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, peut-être au moment où voilà, tu étais encore accrochée à cette branche, au moment où ça n'allait pas bien, puisque parmi les gens qui nous écoutent, eh bien, je suis certaine que bah, vous êtes nombreux à être concernés, à vous sentir proche de ce qu'Adeline a pu vivre à différents moments. Est-ce que tu aurais un conseil, voilà, à nous partager?
Bah, j'ai un conseil que je donne à tous mes amis proches qui sont pas loin du burn-out et c'est toujours le même, bah, c'est d'aller vous voir, d'aller chez Human Tempo. Parce que moi,
Oh,
je suis pas
merci.
spécialiste et vous, vous êtes les spécialistes. Et c'est le seul conseil que je donne parce que je ne sais pas quoi dire d'autre parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on peut dire, ça, quand on n'est pas prêt à l'entendre, ça sert à rien, quoi.
C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est parfois très frustrant pour les proches qui veulent aider, tout simplement, de
Ouais.
voir que en fait la personne va bah, finalement tant que ça vient pas d'elle, c'est
Voilà.
très difficile d'arrêter une situation toxique. Ouais. Ouais.
Et d'ailleurs, mon conseil n'a encore pas marché, hein, autour de moi.
Oui, bah, on est habitué, mais t'inquiète pas, au bout d'un moment, les gens, quand ils finissent par se souvenir qu'on leur a parlé du Human Tempo et
Ouais.
peut-être que certains viendront, et bah, tant mieux si ça leur fait du bien. Et puis, bah, d'autres
Exactement.
écouteront les podcasts, et parfois rien qu'écouter des podcasts, ça peut aussi faire
Exactement.
qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur. Hein.
Et c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est parce que je me dis qu'aujourd'hui c'est un sujet d'ampleur, mais encore très tabou dans les entreprises,
Tout à
alors
fait.
qu'il n'y a aucune raison que ça le soit.
Bien sûr, bah, tu sais, j'ai encore eu une DRH il n'y a pas longtemps, parce que je n'abandonne pas. J'ai toujours l'espoir qu'un jour les entreprises vraiment s'empareront du sujet. Et la réponse, c'est toujours, bah, on n'a pas de burn-out chez nous.
Ben non.
Ou alors, bah, vous savez, nous, le sujet du burn-out, vraiment, on préfère ne pas y toucher. C'est mieux que la personne s'en aille de la structure si jamais il y a un burn-out, quoi.
C'est
Donc
ça.
ça reste extrêmement compliqué pour eux de réaliser que le burn-out, ça peut être en fait une chance pour tout le monde d'évoluer et de recalibrer son niveau d'implication, ses limites, etc. Ça demande beaucoup de courage, donc bravo à toi Adeline de l'avoir eu.
Merci.
Est-ce qu'on peut voir tes créations quelque part? Tu m'as dit sur Instagram?
Oui, sur Instagram, j'ai un compte Instagram qui s'appelle La Petite Émailleuse.
La petite émailleuse, tout attachée?
Oui.
Ok, génial. Eh ben, je vais m'inscrire dès qu'on aura fini cet épisode, parce que j'ai hâte de voir tes créations.
Merci.
Bon, génial. Eh ben, écoute, j'ai été ravie de faire cet épisode avec toi. J'espère qu'il pourra inspirer des personnes qui se posent la question de ce qu'elles traversent, de que faire, voire comment faire avec cette envie de devenir artiste, artisane, artisan. Ben voilà, il y a des vies qui nous montrent que tout est possible, même si pour
Exactement.
l'instant t'as pas encore trouvé l'équilibre parfait, mais au moins tu es en chemin. Ça, c'est
C'est ça.
génial.
Merci Rachel.
Merci Adeline, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était l'épisode du jour. Si ça vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur notre site www.humantempo.com. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Instagram, sur Facebook ainsi que sur LinkedIn. À bientôt!